Bonjour à tous. Donc, je suis Jean-Philippe Périlla. Je suis enseignant-chercheur au laboratoire de géologie de Lyon de l'université Lyon 1. Je fais de la minéralogie physique, c'est-à-dire que j'étudie les minéraux en faisant des expériences où je les soumets sous haute pression, haute température, pour comprendre un peu mieux la composition, la structure, la dynamique des intérieurs planétaires. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une conférence que j'ai intitulée « Les cristaux de la Terre », où je vais vous présenter différents domaines de la cristallographie de façon assez large. Et dans un premier temps, donc, je vais vous montrer comment on est passé d'une approche esthétique des cristaux à une véritable science, qu'on appelle la cristallographie, qui utilise des techniques physico-chimiques de pointe pour caractériser la structure des cristaux et en savoir un petit peu plus sur le rôle de ces cristaux dans le fonctionnement de notre planète. Et puis dans un deuxième temps, eh bien, j'ai choisi de vous présenter 5 espèces minérales qui sont emblématiques de notre planète et qui vont présenter des thématiques de recherche actuelles en minéralogie cristallographie, mais qui vont aussi illustrer l'aspect interdisciplinaire de la cristallographie, puisque vous allez voir qu'on va pouvoir faire des liens avec, on va faire un petit peu de physique, de la chimie, de la biologie, l'histoire des sciences. Donc pour commencer, les cristaux, eh bien, ce sont des minéraux, c'est-à-dire des solides inorganiques naturels qui possèdent, on va le voir, une composition chimique donnée et un état d'organisation donné qu'on appelle l'état cristallin. Mais ce sont des minéraux particuliers puisqu'en fait, ils ont des formes géométriques parfaites, définies de l'espèce, qui sont liées à leurs conditions de croissance. Ce sont en fait quelque part des irrégularités, hein, des épiphénomènes, des accidents de la nature, mais pour notre plus grand plaisir, hein, puisqu'ils sont souvent très esthétiques, ces cristaux. Et c'est ce qui a attiré depuis l'Antiquité l'attention de l'homme sur ces cristaux. Alors il faut savoir que le terme cristal provient donc du grec, cristallos, où vous pouvez retrouver la racine cryo, qui veut dire la glace. Puisqu'en effet, là, ce petit cristal de roche, qui est un cristal de quartz, eh bien, à l'époque, on pensait que c'était de l'eau qui a été solidifiée dans des températures tellement extrême, qui ne serait jamais redevenu liquide. Il serait donc de l'eau éternellement solide. Alors ces géométries des cristaux ont inspiré donc, beaucoup de penseurs de l'Antiquité, en particulier donc, Platon, qui a utilisé un petit peu les cristaux, les formes des cristaux, pour proposer ces 5 solides platoniciens, qui sont 5 volumes convexes, limités par des faces identiques, aux arêtes toutes égales. Donc il avait défini le dodécaèdre, l'isocaèdre, le tétraèdre, le cube et l'octaèdre, qu'il avait associé à chacun des éléments, l'air, l'eau, le feu, la terre, et puis le cinquième élément, l'univers, qui pourrait être aussi l'éther. Alors cette approche, on va dire relativement esthétique des cristaux, elle n'a pas beaucoup évolué au cours du Moyen-Âge. Les cristaux vont rester un petit peu des principes, on va dire, alchimiques. Et c'est surtout avec le siècle des Lumières qu'on va commencer à considérer vraiment les cristaux comme des objets scientifiques qu'on va pouvoir quantifier, mesurer. Et donc on a un Français qui a joué un rôle important dans cette approche des cristaux, qui est Jean-Baptiste Romée de Lisle, qui va définir une loi qui est importante, qui est celle qu'on appelle la loi de constance des angles. Alors comment il a fait ? Eh bien, il a mesuré à l'aide d'un goniomètre qu'il a perfectionné un petit peu lui-même, hein, dont on dispose encore des exemplaires au Muséum d'Histoire Naturelle, eh bien, il a mesuré les angles entre les faces de cristaux d'une même espèce, mais qui présentaient des formes macroscopiques différentes. Donc c'est un petit exercice que vous pouvez faire, hein, aussi avec vos élèves, si vous possédez par exemple des cristaux de roche dans vos collections. Vous pouvez vous amuser à mesurer les angles entre les différentes faces, et vous allez arriver à la même conclusion que Jean-Baptiste Romée de Lisle, c'est qu'il est une chose qui ne varie point et qui reste constamment la même dans chaque espèce. C'est l'angle d'incidence ou l'inclinaison respective des faces entre elles. Donc c'est cette loi de constance des angles qui sous-tend qu'à l'intérieur de ces cristaux, à l'intérieur de cette matière, eh bien, on a un principe qui fait qu'on retrouve cette loi de constance des angles. Alors cet aspect va être poursuivi par un autre scientifique français, l'abbé Jean-René Juste Ahuy, qui a été professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, puis ensuite professeur à la Sorbonne. On va fêter l'an prochain le bicentenaire de sa disparition, 1822. Et cet abbé René Juste Ahuy, il est resté célèbre pour son expérience, qui est l'expérience du clivage de la calcite. Alors la calcite, elle se présente macroscopiquement sous la forme, parce qu'elle est sous la forme de cristal, une forme rhomboédrique. Et qu'a fait René Juste à Huy? Eh bien, il a cassé, on dit qu'il a clivé ce cristal. Et quand vous faites ça, eh bien, vous formez de nouveaux petits cristaux qui sont eux aussi rhomboédriques. Et donc il a reproduit l'expérience plusieurs fois, en trouvant à chaque fois des rhomboèdres. Et il en est arrivé à cette conclusion, ce concept de ce qu'il a appelé la maille intégrante. Hein, il nous dit que dans l'espèce minéralogique, eh bien, on a une collection de corps dont les molécules intégrantes sont semblables par leur forme et composées des mêmes principes, donc la même chimie, unies entre eux dans le même rapport. Donc c'est l'inventeur du concept moderne, ce qu'on va appeler la maille élémentaire, qui est toujours utilisé aujourd'hui, qui est un des fondements de base même de la cristallographie moderne, qui a été donc déterminé par René Juste à Huy. Et donc, dans son idée, eh bien, on peut expliquer les différences de forme macroscopique des cristaux simplement par des différences d'empilement de ce petit volume de matière élémentaire, cette maille intégrante. C'est sa loi de stratification multiple qui explique pourquoi Jean-Baptiste Romé de Lisle pouvait mesurer des formes macroscopiques différentes, mais toujours avec cette loi de constance des angles. Alors les cristaux, ça a été aussi de formidables objets mathématiques. Je pense qu'ils étaient inspirés par la citation de Galilée. Le grand livre de l'univers est écrit en langage mathématique. Et un des personnages qui s'est intéressé aux cristaux en tant qu'objet mathématique, eh bien c'est Kepler, Johannes Kepler, qui en 1611 va publier un ouvrage, donc L'étrenne ou la neige sexangulaire, où il essaie d'expliquer la forme hexagonale des cristaux de neige par un empilement de sphères, de rayons identiques. Et il va être amené à se poser la question de savoir quelle va être la meilleure occupation de l'espace, ce qu'on appelle la compacité, lorsqu'on a un empilement de sphères identiques. C'est le cas de l'empilement des oranges, par exemple, dans les talles du primeur. Eh bien, il va déterminer que cet empilement maximal, il est de pi sur 3 racine de 2 et qui correspond à une occupation de 74% de l'espace. C'est ce qu'on va appeler la conjecture de Kepler. Donc, il ne l'avait pas démontré formellement. Il avait testé empiriquement différents types d'empilement. Et cette conjecture de Kepler, eh bien, en fait, elle a été démontrée formellement qu'en 1998, par Thomas Hales, pour un espace tridimensionnel, et simplement en 2016, pour des espaces de 8 à 24 dimensions. Donc les cristaux sont aussi des objets mathématiques qui ont suscité beaucoup d'intérêt. Un autre mathématicien cristallographe, c'est Auguste Bravais. Alors lui, c'est un petit peu le local de l'étape, puisqu'il est né à Annonay, et il a été docteur de l'Université de Lyon. Il s'est en fait beaucoup intéressé à la symétrie dans les cristaux. Il travaillait donc dans la symétrie en mathématiques et il a essayé d'appliquer ça aux cristaux. Et donc son mémoire de thèse a un titre un petit peu obscur, Mémoire sur les systèmes formés par des points distribués régulièrement sur un plan ou dans l'espace. Donc il a soumis en 1848. Et en fait, c'est le premier qui va définir un petit peu la structure réticulaire en plan bien organisé des cristaux. Puisqu'il nous dit que dans les corps cristallisés, les molécules sont disposées en fils rectilignes, que les centres de ces figures sont équidistants entre eux, sur chacune de ces fils, et on obtient ce que j'ai appelé un assemblage de points ou système réticulaire. Et ces assemblages sont régis par des lois de symétrie spatiale. Donc, vraiment, là, c'est la symétrie qui va contraindre la forme des cristaux, et il va définir, à partir de ces contraintes de symétrie, d'occupation périodique d'un espace tridimensionnel, pour paver un espace tridimensionnel, eh bien, il va définir ce qu'on appelle les 7 systèmes cristallins et 14 réseaux de Bravais, qui sont en fait des polyèdres, qui permettent, comme ça, lorsqu'on les accole de proche en proche, de paver complètement l'espace et de reproduire notre cristal macroscopique. Pour terminer avec cette histoire mathématique des cristaux, eh bien, la dernière étape, c'est l'application d'une théorie mathématique, qui est la théorie des groupes, qui va être appliquée à la cristallographie, en particulier sous l'impulsion du russe Evgaf Fedorov. Et ces théories des groupes, elles définissent ce qu'on appelle en cristallographie 230 groupes d'espaces, c'est-à-dire les 230 façons d'empiler des atomes, d'empiler de la matière de façon périodique dans l'espace, qui est contraint en fait par des relations de symétrie, pour in fine avoir un assemblage qui soit périodique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quelle espèce minérale qu'on connaît sur Terre, on en connaît plus de 4500 espèces minérales à l'heure actuelle, doit cristalliser selon les relations de symétrie d'un de ces groupes d'espèces. Donc des minéraux qui pourraient venir d'une comète, d'une météorite ou de la surface de Mars, de la Lune, hein, chacun de ces espèces minérales vont cristalliser dans un de ces groupes d'espèces, et pas d'une autre façon. Donc on en arrive à la fin du 19e siècle, avec une connaissance sur les cristaux dans laquelle on a défini donc cet état cristallin, qui est un état organisé, périodique de la matière, où on a donc des empilements d'atomes, sachant qu'à l'époque le concept d'atome n'est pas encore véritablement bien défini. Et ce modèle d'état cristallin, il permet déjà de comprendre certaines propriétés macroscopiques des cristaux, certaines propriétés physiques, ce qui est assez paradoxal, parce que dans le même temps, on n'a aucune preuve physique de ce modèle. On n'a jamais pu démontrer physiquement, avant la fin du 19e siècle, qu'effectivement, on avait des atomes empilés de façon périodique selon des contraintes de symétrie. Et c'est en fait les travaux sur la physique des rayonnements électromagnétiques au début du 20e siècle qui vont véritablement révolutionner la cristallographie. Donc il faut se replacer, on va revenir en 1895, dans un laboratoire de l'Université de Munich. Donc on a un physicien, Wilhelm Röntgen, qui travaille en fait sur les phénomènes électriques dans des ampoules sous basse pression. Et lors d'une de ses expériences, eh bien, il observe un rayonnement qui traverse des matériaux opaques. Il ne connaît pas la nature de ce rayonnement et il écrit très rapidement une petite note explicative de son expérience où il indique qu'il observe un rayonnement inconnu. Et le nom de l'inconnu, c'est X, donc on va garder le nom de rayons X. Et ce rayonnement a la propriété de traverser certains matériaux et il va réaliser la première radiographie utilisant ces rayons X qui sera réalisée sur la main de son épouse, pour l'anecdote. Dans quelques bâtiments adjacents, on a un groupe d'autres physiciens, donc toujours à Munich, Max von Loewe et puis ses étudiants en thèse, qui sont donc très au fait de la découverte de ces rayons X, et qui vont avoir l'idée de soumettre un cristal du sulfure de zinc, qui vont venir le faire interagir avec cette lumière X. Et là, un petit peu stupéfaction, enfin, c'est peut-être aussi un petit peu ce qu'ils attendaient, mais ils vont obtenir ce cliché sur lequel, en fait, on voit des taches qui correspondent à des figures d'interférence. C'est, en fait, un phénomène de diffraction. Et, du point de vue physique, si on a un phénomène de diffraction, eh bien, ça veut dire qu'on a une périodicité dans les cristaux. Donc, c'est vraiment une preuve physique de l'état cristallin des cristaux. Donc, pour cette découverte, ils obtiendront donc le prix Nobel l'année suivante, en 1914, puisque dans le même temps, dans cette expérience, ils n'ont pas simplement démontré la structure périodique des cristaux, mais en plus, ils ont démontré la structure ondulatoire de cette lumière de rayons X. Donc, ils ont fait d'une pierre deux coups, et c'était deux grandes questions qui étaient vraiment très importantes à l'époque. Alors, qu'est-ce qu'ils ont observé dans le détail, hein, comment marche ce phénomène de diffraction? Bah pour vous l'illustrer, hein, je vais utiliser mon petit pointeur laser. Là. C'est une expérience que vous pouvez faire dans vos collèges, lycées. Donc vous voyez ici, vous voyez la tâche du pointeur laser. J'ai dans mes mains en fait un petit tamis qui est un petit tissage de fil métallique avec un espacement de 63 micromètres. Entre chaque fil. Et vous allez voir que lorsque je vais faire passer la lumière rouge du faisceau laser au travers de ce réseau périodique, hop, vous voyez apparaître, hein, on n'a plus simplement une tache simple, mais vous voyez apparaître des taches ponctuelles qui sont liées en fait à ce phénomène de diffraction. Donc là, je suis dans le cas d'une lumière qui est de la lumière visible, mais on a exactement le même phénomène dans le cas des rayons X. C'est simplement la longueur d'onde de ma lumière incidente qui va changer. et en fait l'espacement de mon réseau. Hein, ici, c'était 63 micromètres dans le cas de mon petit ami. Dans le cas des atomes, l'espacement va être simplement de l'ordre de quelques angstroms. Alors si on regarde un petit peu plus dans le détail, on a l'onde électromagnétique qui va venir interagir avec le cortège électronique de l'atome. Et dans un cristal, si on a un empilement périodique d'atomes, on a un réseau bien organisé d'atomes, eh bien l'onde électromagnétique, chacun de ces atomes, en fait, va jouer comme un nouveau diffuseur. Comme on le voit, on peut faire une petite analogie avec des petites ondelettes que vous pouvez faire comme ça sur un plan d'eau. Et les interactions entre les petites ondelettes issues des différents atomes vont générer des endroits où vous allez avoir des interférences constructives, c'est-à-dire que l'intensité de l'onde va augmenter, et puis des endroits où vous avez des interférences destructives, où l'intensité de l'amplitude de l'onde va diminuer. Et il y a deux personnages importants qui ont compris ce phénomène dans les cristaux, qui sont William Henry Bragg et William Lawrence Bragg, le père et le fils, qui ont compris que dans le cas des cristaux, pour observer ce phénomène de diffraction, eh bien, il faut qu'on ait une relation de plan miroir entre le faisceau incident, le faisceau diffracté et le plan atomique qui diffuse cette lumière. C'est ce qu'ils traduisent au travers de cette loi qu'on appelle la loi de Bragg. 2D sinus θ est égal à n lambda, donc n c'est un entier, lambda c'est la longueur d'onde des rayons X, le θ c'est l'angle entre le faisceau incident et le faisceau diffusé, le 2θ, et le D c'est la distance entre les plans d'atomes. Donc ce qui est merveilleux dans cette relation, c'est qu'à partir, connaissant, mesurant un angle de diffraction, on peut remonter aux distances entre les plans d'atomes, et comme ça on peut explorer la structure de la matière sous sa forme cristalline. On peut remonter en fait aux positions des atomes dans l'espace. Donc là encore, pour ça ils ont obtenu le prix Nobel l'année suivante, en 1914, le fils avec 21 ans. Et le père, William Henry Bragg, était assez au fait des théories mathématiques, et en particulier il a reconnu dans ses figures d'interférence qu'on pouvait les interpréter avec l'outil mathématique qu'avait développé Joseph Fourier, une cinquantaine d'années avant, puisqu'en fait, l'image de diffraction qu'on voit, qui est comme celle que je vous ai présentée avec le petit faisceau pointeur laser, là, eh bien, en fait, c'est une transformée de Fourier de la densité électronique du cristal. Ça veut dire que si on arrive à mesurer ce cliché de diffraction en faisant l'opération inverse, ce qu'on appelle techniquement une transformée de Fourier inverse, eh bien on arrive à remonter à la position des cristaux des atomes dans l'espace. Alors ce qu'on voit dans les atomes, c'est la densité électronique, puisque les rayons X interagissent avec le cortège électronique et pas avec le noyau de l'atome. Donc on peut comme ça remonter, avoir une image de la densité électronique du cristal et donc la position atomique de chacun des atomes dans notre cristal, en faisant cette opération mathématique entre l'espace de la diffraction, qu'on appelle l'espace réciproque, et puis notre espace réel, l'espace du cristal. Alors pour vous illustrer un petit peu plus cette relation entre la diffraction, l'utilisation de la diffraction, et comment on remonte à la position atomique, eh bien, je vais vous diffuser ce petit film, dans lequel on va considérer donc un réseau 1D, une rangée d'atomes, qui va venir donc interagir avec notre onde de rayons X incidente. Et donc si on a simplement, si on considère simplement une rangée périodique d'atomes, eh bien au niveau du cliché de diffraction, on va obtenir des lignes avec un espacement qui va nous informer sur l'espacement entre les atomes dans le cristal réel. Si on se place dans le cas d'un cristal 2D ou 3D, on ne va plus obtenir des lignes, mais en fait ces lignes vont interagir entre elles, et on va obtenir des taches de diffraction. Dans ces taches de diffraction, plus, par exemple, on va augmenter dans le cristal les distances entre les atomes, plus les distances entre les taches sur le cliché de diffraction vont diminuer, et inversement, on a une relation inverse entre les distances atomiques et les distances des taches sur le cliché de diffraction. Et puis si on vient positionner une espèce atomique différente, un atome donc avec une densité électronique différente, par exemple ici présenté en bleu, mais qui a la même périodicité que les atomes, par exemple, qui sont ici représentés en rouge, eh bien, on ne va pas changer la position des taches de diffraction, mais on va venir moduler leur intensité. Donc tout ça pour vous dire qu'à partir du signal de diffraction, en analysant la position des taches de diffraction, en analysant leurs intensités, on peut remonter comme ça à la structure tridimensionnelle du cristal. Donc c'est vraiment cet outil qui va révolutionner la cristallographie et qui a été très utilisé, qui est toujours très utilisé hein, de nos jours, avec bien sûr de très très grandes améliorations dans la production de rayons X. En particulier dans les 30 dernières années, on arrive maintenant à produire sur ce qu'on appelle les sources synchrotrons, qui sont des grands accélérateurs de particules. On arrive à produire des rayons X qui sont extrêmement brillants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des faisceaux de rayons X de très petite taille, quelques nanomètres, qu'on va pouvoir analyser des échantillons de très petit volume avec une très bonne résolution spatiale. Donc ça ouvre la voie, si on associe ça avec l'avènement des puissances de calcul, eh bien ça amène à pouvoir décrire des structures cristallographiques qui sont très complexes, par exemple comme des composés chimiques ou même des composés organiques. Et dernièrement, par exemple, en 2000, eh bien on a la structure du ribosome qui a été définie à partir de mesures qui ont été réalisées sur le synchrotron ESRF de Grenoble, ce qui a valu donc le prix Nobel de chimie à ses auteurs. Alors on a aussi d'autres outils de pointe à la disposition du minéralogiste cristallographe pour étudier les cristaux. On peut citer la microscopie électronique, où là, on ne va pas regarder les interactions rayons X matière, mais les interactions entre le rayonnement électronique des électrons qui sont accélérés avec la matière. Et donc on peut faire des images à haute résolution de nos cristaux. On peut aussi observer des phénomènes de diffraction qui nous permettent de remonter à la structure des cristaux. On peut aussi mesurer la chimie de ces cristaux en utilisant donc un signal de fluorescence. Et une autre gamme de techniques d'analyse dont on dispose, c'est les spectroscopies vibrationnelles. Ça peut être la spectroscopie Raman ou infrarouge. Le principe, c'est d'envoyer une lumière monochromatique. Donc dans le cas du Raman, ça peut être par exemple une lumière incidente ici qui va être dans la longueur d'onde du verre à 532 nanomètres. Elle va venir interagir avec la structure cristallographique de notre cristal. En fait, on va faire vibrer, en amenant cette énergie, on va faire vibrer les liaisons et les molécules de notre cristal. Et ces vibrations vont engendrer des modifications du spectre lumineux incident. On va voir apparaître des raies. Donc par exemple, si on a pris ici du vert, on va voir apparaître des raies, ici par exemple dans le rouge ou dans le bleu, qui vont être une signature d'une espèce minérale. La signature vibratoire, on pourrait dire, d'une espèce minérale, ce qui va nous permettre comme ça de reconnaître une espèce minérale dans un fichier, un catalogue de signatures Raman d'espèces minérales. Et on a la même chose pour l'infrarouge. Donc c'est armé de ces différents outils qu'on va pouvoir explorer les cristaux et qu'on va pouvoir étudier le rôle de la structure de ces cristaux dans le fonctionnement de notre planète. Donc je vais en passer à la deuxième partie de mon exposé dans lequel j'ai choisi, un petit peu arbitrairement, mais j'ai choisi cinq grandes espèces minérales qui vont nous permettre donc de montrer l'actualité des recherches en minéralogie, cristallographie, et puis la diversité des thématiques qui sont abordées en cristallographie. Donc le premier minéral que je vais traiter, c'est le fer. Le fer, c'est le constituant majeur du noyau de notre planète. On peut en retrouver au sein des météorites de fer, qu'on appelle les sidérites, donc qui sont des analogues de notre noyau planétaire. Et la question se pose de savoir quelle est la structure du fer aux conditions de pression et de température du noyau terrestre. Savoir comment les atomes de fer s'organisent sous ces conditions. Alors ce qu'on peut faire au laboratoire, eh bien, c'est prendre un échantillon de fer et le soumettre aux conditions de pression et de température du noyau terrestre en utilisant ce petit dispositif qui a une cellule en enclume de diamant. Donc on va venir comprimer un échantillon entre la pointe de deux diamants, ce qui va nous permettre de reproduire les conditions du noyau terrestre. Donc au centre de la Terre, on a 360 gigapascals, ça représente 3,6 millions de fois la pression atmosphérique. L'avantage du diamant, c'est qu'il est transparent, donc on peut amener un faisceau laser infrarouge, on peut le faire passer au travers du diamant, il va venir chauffer l'échantillon, et on peut chauffer notre échantillon facilement jusqu'à 6-7 000 degrés. Donc on peut vraiment reproduire les conditions de l'intérieur de la Terre au laboratoire. Autre avantage, c'est qu'on peut aussi faire passer des rayons X au travers, et en utilisant les rayons X, hein, comme je viens de vous l'expliquer, on peut remonter vraiment à la structure, à la façon dont vont s'organiser les atomes de fer en fonction, et comment ces structures elles vont évoluer en fonction de la pression et de la température. Donc ce qu'on obtient, c'est ce qu'on a ici, ce qu'on appelle un diagramme de phase, donc pression en fonction de la température, où on voit effectivement que les atomes de fer eh bien, s'organisent de façon différente dans l'espace pression-température, avec des noms un petit peu barbares. Hein, ici, une structure BCC, en fait, c'est cubique centré. Structure HCP, c'est hexagonal compact. Et ici, cubique face centrée. Et puis, on peut aussi déterminer cette courbe ici, qui est la courbe de fusion, qui est le passage donc, de l'état cristallin solide à l'état amorphe liquide. Alors si on regarde un petit peu dans le détail ces structures cristallines, on peut s'amuser, hein, je vous ai pris ici l'exemple de la structure cubique face centrée, on peut s'amuser de, petit exercice mathématique, calculer l'occupation de l'espace par les atomes de fer dans le cas de ces structures. Donc les atomes de fer sont des sphères de rayons équivalents. Donc dans le cas de la structure cubique face centrée, on a un atome de fer qui est à chacun des sommets du cube, et puis au milieu de chacune des faces. Donc pour calculer cette compacité, qu'est-ce qu'il faut connaître? Elle correspond à quoi? Elle correspond au ratio entre le volume occupé par les atomes sur le volume du cube, le volume de la maille cristalline. Donc ce volume de la maille cristalline nous est donné simplement par l'arête, hein, le cube de l'arête A du cube. Pour pouvoir calculer le volume occupé par les atomes, eh bien il faut connaître, première chose, le nombre d'atomes qui sont en propre sur cette maille cristallographique. Donc pour ça, il faut tenir compte du fait que les atomes de fer qui sont au sommet du cube, ici, sont partagés par 8 autres petits cubes voisins, et que les atomes qui sont sur les faces, ici, sont partagés à chaque fois par un cube voisin. Donc quand on fait ce petit raisonnement, on obtient, on coupe les atomes pour ne laisser que ceux qui sont en propre sur la maille, et qu'on fait le total, on obtient 4 atomes de fer par maille cristalline. Et on peut calculer le volume de chacun de ces atomes de fer, sachant que dans cette structure, eh bien, les atomes sont tangents au niveau de la diagonale de la face du cube, hein, qui est égale à A racine de 2, où A donc, est l'arête du cube. Donc en faisant ce petit calcul, 4 atomes de fer, le volume ici 4 tiers de pi r au cube, en prenant le R A racine de 2 sur 4, on divise tout ça par A au cube, on obtient 0,74, qui est, doit vous rappeler, la conjecture de Kepler. Effectivement, l'empilement cubique face centrée hein, est celui qui maximise, dans le cas où on a des sphères homogènes, donc ici, le fer, c'est une espèce monoatomique, on n'a que des atomes de fer, c'est l'empilement qui maximise la compacité. Et si on regarde la compacité des différentes structures en fonction de la pression et de la température, eh bien, ce qu'on observe, c'est que lorsqu'on augmente la pression et la température, on va vers des structures qui sont de plus en plus compactes pour s'adapter en fait aux conditions d'augmentation de la pression. Autre implication de ce diagramme de phase, par rapport donc à la courbe de fusion du fer, si on superpose un géotherme terrestre, donc ce qu'on appelle le géotherme, c'est l'évolution des températures à l'intérieur du globe, donc c'est ce qui vous est représenté ici en orangé, eh bien on voit que entre 2900 km de profondeur et un peu plus jusqu'à moins 5000 km de profondeur, les conditions de température hein, sont supérieures à celles de la courbe de fusion du fer, de solidification. Et donc, ça veut dire que le fer est sous sa forme liquide. Dans le noyau, c'est ce qu'on va appeler le noyau externe de la Terre, est sous sa forme liquide. Et ça, c'est corroboré par des données sismologiques. Et puis, à partir d'une certaine pression, à peu près vers 330 gigapascales, ce qui correspond à une profondeur de 5100 km, eh bien les conditions de pression sont telles, hein, on voit que le géotherme passe sous la courbe de solidification. Ça veut dire qu'on va avoir une cristallisation de fer solide. Donc ça implique, sachant que la Terre se refroidit par convection depuis sa formation jusqu'à l'actuel, ça implique que la graine, hein, donc le noyau interne, cristallise au cours du refroidissement de la planète. Et on estime à peu près alors, qu'on a une cristallisation de la graine grossit de l'ordre de quelques kilomètres par an, ce qui représente quand même de l'ordre de 10 000 tonnes de fer par seconde qui cristallise sous nos pieds du fait donc, de ce diagramme de phase et du refroidissement du globe terrestre. Autre implication, eh bien, ça veut dire que lors de des étapes de formation de notre planète, la Terre primitive était beaucoup plus chaude, le géotherme plus élevé. Donc, à la formation de la Terre, tout laisse à croire que la graine était absente. Et une des grandes thématiques, une des grandes questions de recherche actuelle, c'est celle de l'estimation de l'âge de la graine. Alors, il y a des chiffres qui varient beaucoup, mais bon, il y a un âge qui est proposé un peu plus souvent, qui est celui de l'ordre de 1,3 milliard d'années. La graine n'aurait que 1,3 milliard d'années, ce qui a des implications sur la génération du champ magnétique terrestre et l'âge du champ magnétique terrestre, puisqu'on sait qu'il est lié à la possibilité d'avoir de la convection dans le noyau externe liquide. Et ça peut aussi se répercuter sur les éventuelles vies sur Terre, puisque le champ magnétique terrestre va éloigner certaines particules du vent solaire énergétique à la surface. Donc cette thématique de l'âge de la graine, c'est quelque chose qui en géophysique, sur les intérieurs planétaires, est très important. La deuxième espèce minérale dont on va essayer d'explorer un petit peu, c'est toujours ce cristal de quartz, là, ce petit cristal de roche. Et plus largement, au travers de ce quartz, on va parler des silicates. Les silicates qui représentent à peu près 9 minéraux sur 10 des croûtes océaniques et continentales, parce que lorsqu'on prend la composition chimique de ces croûtes, eh bien, aux deux tiers, elles vont être composées de silicium et d'oxygène. Donc la structure de base de ces silicates, ça va être ce petit tétraèdre, SiO4. Donc on a un cation Si4+, entouré de 4 anions O2-. Et ces petits tétraèdres vont s'arranger entre eux, se lier par leur sommet, pour former soit des cycles, soit des chaînes simples, des chaînes doubles, des petits feuillets, où ils peuvent se lier par l'ensemble de leur sommet pour former vraiment des structures 3D. Ça va expliquer la façon dont ils s'arrangent entre eux, ça va expliquer toute la diversité des différentes familles de silicates. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail sur cette zoologie des silicates. Simplement pour vous dire qu'on peut utiliser la microscopie électronique à très haute résolution pour voir ces structures de silicate. Vous avez ici un exemple d'un cyclosilicate, le béryl, où vous voyez donc retrouver cette structure en cycle, hein, et à noter donc l'échelle 5 nanomètres. Donc on arrive vraiment à faire des images de très haute résolution. Autre exemple, ici on a un phyllosilicate, et vous voyez bien cet arrangement en feuillets. Ils sont ici des feuillets de muscovite de ce phyllosilicate. Donc vraiment, on a tous les outils pour explorer en profondeur la structure de ces cristaux. Alors je vais profiter de ce cristal de quartz pour vous parler un petit peu de l'origine de la couleur dans les minéraux. Alors c'est un sujet assez vaste. Il y a beaucoup de phénomènes physiques qui peuvent être à l'origine de la couleur dans les minéraux. Dans le cas du quartz, lorsqu'il est sous sa forme cristalline de quartz alpha, donc c'est un tectosilicate, et si on n'a aucune impureté, eh bien il doit se présenter sous sa forme limpide de ce petit cristal de roche. Mais dans la nature, hein, vous avez souvent tous observé des cristaux de quartz qui sont colorés. Ils peuvent être colorés en violet, en jaune, en rosé, il y en a certains qui sont laiteux, il y en a d'autres comme celui-ci, hein. Vous pourrez venir les voir en fin d'exposer, si vous le souhaitez. Ce sont des quartz fumés, voire très, très sombres, très, très noirs. Eh bien, cette coloration, elle est liée à la présence soit d'impuretés, soit d'inclusions. Donc, dans le cas de l'améthyste et de la citrine, en fait, elle est liée à une substitution d'un atome de fer à la place du silicium 4+. Et donc, ça va moduler, en fonction aussi du degré d'oxydation du fer, ça va moduler la coloration. Dans le cas des quartz fumés, eh bien, c'est la substitution d'un cation d'aluminium à la place du silicium qui va générer donc, cet aspect fumé, associé en fait, à une irradiation gamma du minéral, ce qui est souvent le cas dans les roches magmatiques. On a de la radioactivité, et donc sous l'influence des irradiations et de cette substitution d'aluminium, on va avoir de l'absorption de la lumière qui va nous donner cet aspect foncé, fumé des quartz. Autre cas de coloration, le quartz rose, les quartz hématoïdes, qui en fait, là, la coloration elle est liée à la présence de petites inclusions. Hein, en fait, c'est une autre espèce minérale qui, lors de la croissance du quartz, s'est retrouvée emprisonnée à l'intérieur. Et c'est ces petites inclusions, ces fines aiguilles, par exemple, de borosilicate d'aluminium, qui vont conférer sa couleur rose au quartz. Et dans le cas du quartz hématoïde, eh bien, c'est les petites inclusions d'hématite qui vont lui donner cette couleur rouge. Et enfin, les cristaux de quartz que vous retrouvez peut-être de façon la plus commune lorsque vous allez vous promener, vous allez sur le terrain, c'est souvent des quartz qui sont opaques, un petit peu laiteux, hein, cet aspect blanc laiteux, qui est lié en fait à des tout petites inclusions de bulles d'eau à l'intérieur de la structure du quartz qu'il a acquis lors de sa croissance. Dans ces silicates, il y a une espèce minérale particulière, emblématique on va dire, qui est l'olivine. Alors l'olivine, j'en ai un échantillon ici, vous pouvez en retrouver lorsque vous allez vous promener, par exemple dans le massif central, on a des cristaux comme ça, de couleur vert-olive, qui sont remontés sous forme ce qu'on appelle des xénolithes, hein, c'est des petits cailloux étrangers qui sont remontés par le volcanisme, donc on les retrouve inclus au sein de roches volcaniques qui sont des basaltes. Donc elles ont des colorations vert-olive, ce qui leur donne ce nom d'olivine. Et pourquoi c'est un minéral particulier? Parce que c'est le minéral le plus, avec ses polymorphes, le plus abondant de la Terre, puisque c'est lui qui constitue le minéral le plus abondant des roches du manteau, qui sont les péridotites. Alors, si on réalise une petite expérience en cellules en enclume de diamant, comme le dispositif que je vous ai présenté dans le cadre de l'étude du fer, et qu'on soumet un de ces petits cristals d'olivine à une augmentation de pression et de température, et qu'on regarde ça encore avec des rayons X, eh bien on va voir que l'olivine, en fait, elle se transforme de façon séquentielle, hein, d'abord en un minéral avec un nom barbare, qu'on appelle la wesleyite. En fait, les noms des minéraux sont attribués à des noms de personnes qui les ont synthétisés pour la première fois. Donc c'est pour ça, ici c'est le cas, c'était une phase synthétisée par Monsieur Wesley, un Australien. Donc on a appelé le minéral wesleyite. On a une autre phase, ensuite une autre transformation vers la ringwoodite, qui a été synthétisée pour la première fois par Monsieur Ringwood. Et puis enfin, à plus forte pression, eh bien, le minéral se déstabilise en deux espèces. La magnésiobustite, en fait, c'est un oxyde de fer et de magnésium, et puis une autre phase qu'on appelle la bridgemanite. Et en fait, à chaque fois qu'on a des transformations, le silicate, le minéral, est de plus en plus dense pour accommoder les conditions de pression. Et ce qui est remarquable, c'est que dans cette dernière phase, la bridgemanite, eh bien, le silicium n'est plus dans son petit site tétraédrique, mais en fait, il est entouré de 6 voisins à l'intérieur d'un petit octaèdre, ce qui augmente fortement la compacité de la structure. Donc, ce changement de coordination du silicium est un marqueur de l'adaptation de la structure cristallographique aux conditions de pression de l'intérieur du globe. Et donc, chacune de ces transformations, chacune de ces transitions du minéral olivine a été associé à une des discontinuités sismiques que rapportent les sismologues à l'intérieur du globe, donc, qui se produisent à 410, 520 et 660 km de profondeur. Et c'est à partir donc, de ces discontinuités sismiques et de leur interprétation minéralogique eh bien, qu'on a défini ce qu'on appelle le manteau supérieur, la zone de transition et le manteau inférieur. Alors par chance, ces petits minéraux de l'intérieur de la Terre, on peut en retrouver dans des objets naturels au sein des météorites. Alors, par n'importe où au sein des météorites, au sein de structures qu'on appelle les veines de choc. Vous imaginez que lorsqu'on a des impacts météoritiques, il y a sur certaines zones très localisées, on a des conditions de pression et de température qui sont telles qu'elles sont similaires à celles des intérieurs planétaires. Lors du choc, dans ces veines, eh bien, on a les mêmes conditions de pression et de température qu'à l'intérieur de la Terre. Et on va donc former des minéraux qui sont des analogues de ce qu'on va retrouver à l'intérieur de la Terre. Donc on a retrouvé beaucoup des phases mantéliques synthétisées expérimentalement dans des météorites. En particulier, assez récemment, on a découvert donc, dans la météorite de Ten Ham cette forme, ce minéral, la bridgemanite, hein, en 2014. On retrouve aussi la ringwoodite, on peut aussi retrouver de la wesleyite. Donc ce minéral, l'olivine, comme tous les cristaux, les minéraux, c'est pas un cristal qui est parfait. C'est comme l'homme, c'est ce qui fait un petit peu la beauté de ces cristaux, c'est qu'ils sont pas parfaits. lors de leur croissance, lors de la croissance de la maille cristalline, eh bien, on peut avoir des lacunes, c'est-à-dire qu'il y a un atome qui va être absent, on peut avoir des insertions ou des impuretés, c'est-à-dire un autre atome qui va venir, une autre espèce chimique qui va venir en position interstitielle entre d'autres atomes. On peut avoir ce qu'on appelle des défauts linéaires, c'est-à-dire qu'on peut insérer un demi-plan d'atomes supplémentaires ou on peut cisailler des plans d'atomes. En tout cas, ça va créer des défauts qu'on peut observer en microscopie électronique. Et on va voir que ces défauts, ils ont un rôle très important dans les propriétés macroscopiques des roches. Premier exemple du rôle de ces défauts, on a retrouvé en 2014 ce petit minéral ici qui est un échantillon de ringwoodite qui s'est formé dans la zone de transition du manteau, donc à une profondeur de plus de 500 km, et qui est remonté à la surface, à l'intérieur d'un diamant, protégé par le diamant, qui a vraiment joué le rôle de coffre-fort, qui a permis, donc, lors de la remontée de la roche vers la surface, de maintenir le minéral ringwoodite dans sa structure et inchangé par rapport à ses conditions à l'intérieur de la Terre. On a appliqué donc des méthodes de spectroscopie vibrationnelle pour étudier ce petit minéral. Alors je vous rassure, ce sont des méthodes qui sont non destructives. Donc on a pu épargner le diamant et garder notre échantillon exceptionnel de ringwoodite intact. Et en utilisant donc la spectroscopie vibrationnelle infrarouge, eh bien on a vu qu'on avait une liaison particulière qui donnait lieu à ce signal d'absorption qui trace la présence d'eau à l'intérieur de ce cristal. Alors l'eau, on a pu le démontrer, n'est pas présente sous sa forme moléculaire H2O, mais elle est présente sous la forme de liaison hydroxyle, sous sa forme OH, hein, et on a pu modéliser comment, grâce aux défauts et aux impuretés, on peut incorporer de l'eau dans ces minéraux qui normalement sont anhydres. Eh bien, les défauts permettent de stocker de l'eau jusqu'à des quantités importantes, puisqu'on a déterminé qu'on pouvait avoir jusqu'à 1,4% d'eau dans ce minéral. Si on pense que ce minéral qui nous est remonté à la surface est représentatif de la teneur en eau de la zone de transition du globe terrestre, si on fait un petit bilan de masse en tenant compte du volume de cette zone, eh bien, on peut estimer qu'on a jusqu'à 3 fois le contenu en eau des océans de surface qui sont présents dans le manteau profond. Ce qui trace vraiment le rôle très important du cycle profond de l'eau, hein, dans le cycle global de l'eau à l'échelle du globe. Hein, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. C'est bien sûr sur des échelles de temps qui sont plus longues que le cycle de l'eau de surface que vous avez peut-être l'habitude de présenter. Mais le cycle profond de l'eau peut avoir un rôle très important pour le contrôle du bilan de l'eau sur des échelles géologiques. Et c'est lié à la présence de défauts dans les cristaux. Autre influence de la présence de défauts dans l'olivine sur la déformation des minéraux et des roches. En fait, ces défauts, ils vont faciliter la déformation des roches. Si on n'avait pas de défauts, pour déformer un assemblage cristallin, en fait, il faudrait casser de façon simultanée tout un plan atomique, ce qui nécessite vraiment beaucoup d'énergie. À l'inverse, si on a un défaut qui est présent à l'intérieur du cristal, eh bien pour obtenir la même déformation macroscopique, il suffit simplement de translater de proche en proche ce défaut. Hein, je vous ai pris l'analogie ici du tapis qu'on essaie de déplacer. Si on essaie de le déplacer en le tirant d'une seule fois, s'il y a beaucoup de résistance, si on a un coefficient de friction élevé, ça va nécessiter beaucoup d'énergie, on ne va pas forcément y arriver. Alors que si on fait translater de proche en proche un petit défaut, on va y arriver à moindre frais. Eh bien c'est de façon analogique un petit peu ce qui se passe à l'intérieur des cristaux, et c'est parce qu'on a des défauts qui sont présents à l'intérieur de l'olivine que ça va faciliter la déformation et donc la convection dans le manteau terrestre. Hein, et cette convection, je vous le rappelle, hein, son expression de surface, c'est la tectonique des plaques. Donc des petits défauts à l'intérieur des cristaux, c'est une minorité mais qui est influente et qui va contrôler vraiment des processus globaux, convection, tectonique des plaques. Quatrième espèce minérale dans mon petit catalogue, les serpentines. Alors les serpentines, en fait, ce sont les filles de l'olivine. Donc là, je vous ai montré l'olivine. Les serpentines, on les appelle serpentines parce que si vous trouvez des échantillons sur le terrain, elles vont avoir un aspect un petit peu en écaille de peau de serpent. Elles ont une coloration verte, vert foncé, vert sapin un petit peu. Et ces serpentines, ce sont des phyllosilicates magnésien hydraté, donc on voit ici la structure qu'on peut étudier en rayons X. Elles sont issues de ce qu'on appelle une interaction hydrothermale entre l'eau livide et l'eau de mer, qui vont former, donc selon cette réaction, de la serpentine, plus un oxyde de fer, la magnétite, et va libérer de l'hydrogène. Cette réaction de serpentinisation, donc d'interaction entre les roches qui contiennent de l'eau livide, donc les roches du manteau terrestre, ou les roches basiques, avec l'eau de mer, se produit au niveau des zones de rides de médio-océaniques, au niveau des dorsales, au niveau des zones de failles transformantes. On va avoir de la serpentinisation aussi à proximité des fosses de subduction, lorsque la plaque océanique se fissure pour plonger à l'intérieur du manteau. Et puis on peut aussi retrouver de la serpentinisation associée à la libération de fluide lors de la subduction. Donc le degré de serpentinisation des roches du manteau peut être variable, mais lorsqu'on a une serpentinisation complète, hein, sachant que la serpentine contient dans sa structure sous forme d'OH jusqu'à 13% d'eau, eh bien, vous pouvez retenir un petit peu comme ordre de grandeur que si vous prenez 1 kg de serpentine, vous avez l'équivalent dans la main d'un verre d'eau. Hein, donc ça, c'est beaucoup, ça représente vraiment ces serpentines. Elles jouent un rôle majeur dans le transfert de l'eau de surface vers le cycle profond de l'eau, dont on a parlé du stockage dans les polymorphes de l'eau livide. Ces serpentines, elles ont aussi un rôle très important puisque la réaction est exothermique, ça va être une source d'énergie. On produit de l'hydrogène qui a un fort pouvoir réducteur qui peut être utilisé dans certains métabolismes. On va former de façon abiotique des composés organiques via des réactions de type Fischer-Tropsch. C'est comme ça par exemple qu'on peut former du méthane et puis des composés plus complexes qui peuvent être des briques pour des biomacromolécules ensuite. Quatrième propriété de ces phyllosilicates, hein, c'est qu'ils forment des feuillets. Et sur ces feuillets, on va avoir par adsorption, une surface réactionnelle très intense avec ces macromolécules qui vont permettre comme ça d'avoir potentiellement une polymérisation pour former des molécules organiques de plus en plus complexes. Donc on a des véritables réacteurs chimiques du vivant. Et donc on pense que les sites de serpentinisation, qui étaient nombreux lors des stades précoces de notre planète, mais aussi de la planète Mars, hein, puisqu'on sait que le passé de Mars était assez proche de celui de la Terre, ont pu être des lieux propices à l'émergence de la vie. C'est une des hypothèses de l'apparition de la vie sur Terre. C'est pas la seule, mais c'est une des hypothèses. Et dans ce scénario, eh bien, en 2018, hein, on a une équipe de chercheurs français, donc de l'IPG de Paris et puis du laboratoire de géologie de Lyon, qui ont retrouvé, en faisant un forage dans des roches de péridotite serpentinisées du massif d'Atlantis, au niveau de la ride médio-atlantique, eh bien ils ont retrouvé, c'est ce qu'on voit ici en fausse couleur, en jaune, ils ont retrouvé des molécules organiques, des acides aminés en l'occurrence, qui ont pu être caractérisées comme complètement abiotiques, formées par cette réaction de serpentinisation. Donc on a démontré au moins, on va dire, les premières étapes de ce scénario de formation de la vie via les serpentines. Voilà, on va voir ce que nous réserve la suite. Hein. Les recherches sont encore très actuelles. Est-ce qu'on peut aller jusqu'aux étapes ultimes de création de la vie? En plus, cette réaction de serpentinisation, elle a un autre avantage qui, lui, est très actuel, c'est qu'elle produit du dihydrogène. Et elle le produit de façon, peut être relativement abondante. Si on en croit les mesures qui ont été effectuées par les submersibles, par exemple de l'Ifremer sur les sites des rides médio-atlantiques, lorsqu'on mesure la fraction gazeuse qui est libérée par ces fumeurs, eh bien on arrive à des teneurs de l'ordre de 45% de dihydrogène, ce qui est très important. Et une des grandes avancées, on va dire, de ces 10-15 dernières années, c'est qu'en fait, cette production d'hydrogène qu'on pensait initialement limitée à ces domaines sous-marins, eh bien, en fait, on en a des preuves, des émanations aussi sur Terre, en particulier au niveau des massifs ophiolitiques. Ça a été vu au niveau du massif de Loman. Ça a été, potentiellement, on en a aussi au niveau de la Nouvelle-Calédonie, où on a, par exemple, on retrouve des zones humides, des sources, où on a des émanations d'hydrogène, on a des zones de fontaines ardentes, dans lesquelles on n'a pas simplement du dihydrogène. On a aussi du méthane, des choses comme ça, mais en tout cas, on a des teneurs en hydrogène qui sont élevées. Il y a beaucoup de prospections à l'heure actuelle pour essayer de voir, quantifier un petit peu cette ressource d'hydrogène naturel, potentiellement abondante et qui pourrait être une des sources d'énergie décarbonée. Donc j'en arrive à une des dernières espèces minérales que je voulais explorer aujourd'hui. Donc on revient sur notre cristal de carbonate. Pour vous illustrer en fait les relations entre le monde minéral et le monde vivant, comment le monde vivant utilise les ions qui sont en solution, par exemple ici donc le Ca2+, CO3-, pour former, minéraliser donc leur squelette ou exosquelette. Et je vais vous parler plus particulièrement donc des biominéralisations carbonatées, dans lesquelles en fait on peut retrouver le composé CaCO3 sous diverses formes. On peut le retrouver soit sous une forme qu'on va dire amorphe, c'est-à-dire qu'on a un composé CaCO3 qui est solide, mais où on n'a pas cet état cristallin organisé de la matière. Hein, on a des atomes de calcium, de carbone, d'oxygène, mais qui sont désorganisés. En tout cas, on n'a pas de structure à grande échelle. Donc c'est ce qui est appelé ici sur ce diagramme ACC, amorphose carbonate. Et puis on a trois différentes phases cristallines, qui sont la watérite, l'aragonite et la calcite, qui ont des structures cristallographiques qui leur sont propres, bien connues, qui, lorsqu'elles peuvent croître dans un milieu où il y a de l'espace et exprimer leur forme cristallite, ont des formes complètement différentes. Et si on regarde dans ce diagramme, on a en fait l'énergie libre du cristal pour ces différents types de structures. Alors l'énergie libre, c'est quoi? C'est en thermodynamique, un système naturel tend à minimiser son énergie pour être stable. Et bien si on regarde ces différentes formes de CaCO3, on s'aperçoit que normalement, c'est la calcite qui, en milieu naturel, aux conditions de pression et de température de la surface de la Terre, doit être la forme la plus stable du point de vue énergétique. Hein, la façon dont l'arrangement des atomes de calcium, de carbone, d'oxygène coûte le moins d'énergie aux conditions ambiantes. Or, dans les biominéralisations, on va le voir, on peut retrouver l'ensemble de ces différents polymorphes de la calcite, ce qui montre bien que on ne peut pas expliquer simplement par des contraintes thermodynamiques, hein, par des seuls mécanismes de croissance cristalline en solution, les biominéralisations, et qu'on a en fait forcément un contrôle biologique, hein, l'association donc de molécules organiques à la phase minérale qui vont jouer un rôle sur cette cristallisation de carbonate. Donc pour vous illustrer cette variété de minéralisation carbonatée qu'on peut retrouver dans la nature, je vais traiter trois exemples. Une coquille d'œuf, une coquille de gastéropode, et puis je vais parler des exosquelettes des coraux. Donc ici, dans le cas de la coquille d'œuf, vous avez une image en microscopie électronique de cette coquille, où la majorité de l'épaisseur, ici, là, les près de 200 micromètres, sont en fait des parties cristallines. Et lorsqu'on réalise de la diffraction de rayons X sur ces parties cristallines, eh bien, on obtient un cliché qu'on peut interpréter comme la structure de la calcite. On a uniquement de la calcite. Par contre, on voit que les taches ici sont un petit peu allongées. Hein, c'est pas des taches bien rondes, comme j'ai pu l'exposer tout à l'heure. Ça trace en fait que ces minéraux de calcite, en fait, ils sont tous allongés dans un même sens. On a une structure, on dit en palissade, des cristaux de calcite. Et ça, on pense que cette cristallisation uniquement de calcite, donc à partir des cations dissous ou dans le milieu, est contrôlée par des protéines du fluide du terrain. Donc dans le cas des coquilles d'œufs, hein, 100% de calcite. Dans le cas d'une coquille de mollusque, donc ici c'est chez Nerita, un gastéropode, eh bien les coquilles montrent en fait deux couches, une couche interne et une couche externe, dans lesquelles on peut reconnaître des stries de croissance. Et lorsqu'on essaie d'identifier les carbonates présents en faisant par exemple donc la microscopie vibrationnelle Raman, si on fait ça sur une petite zone, comme ici, hein, en contact de ces deux couches, eh bien on peut observer ce type de cartographie où on va reconnaître, si en rouge, la présence de calcite, mais aussi, en vert et en bleu, la présence d'aragonite avec des microstructures, c'est-à-dire des tailles de grains qui sont un petit peu différentes. Donc ce qui est remarquable, c'est qu'on a, au sein d'une même coquille, une cristallisation conjointe de calcite et d'aragonite. Et c'est interprété comme associé au métabolisme des cellules du manteau qui, en fonction des conditions, hein, le métabolisme va soit favoriser donc la précipitation de calcite, soit d'aragonite. Donc la coquille d'œuf, on avait 100% de calcite. Là, on a un mélange entre les deux. Et puis, on a le corail. Dans le cas du corail, on a la présence d'un tissu spécifique qu'on appelle calcicoderme. Donc, c'est ce qui vous est mis ici sur cette petite coupe, hein, c'est un centre de calcification. Vous voyez ici une image en coupe donc de l'exosquelette du corail. Et puis lorsqu'on vient faire une petite analyse Raman de ces minéralisations, eh bien, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve principalement la cristallisation d'aragonite, avec très localement la présence de calcite amorphe. Et donc, en fait, que fait ce calcicaderme? Eh bien, il permet la transformation, hein, on passe en fait d'une calcite amorphe à une aragonite. Et donc, dans le cas des coraux, hein, in fine, on a un exosquelette qui est 100% aragonite. Donc voilà, pour vous montrer au sein de ces biominéralisations, hein, toute la diversité là, qu'on peut retrouver d'utilisation, donc, soit de calcite, d'aragonite ou un mélange entre les deux. Alors je viens d'arriver vers la fin de mon exposé pour vous présenter cette théorie de l'évolution. Alors c'est pas la théorie de l'évolution que vous connaissez, c'est la théorie de l'évolution des minéraux. C'est un concept très récent qui a été proposé par mon collègue Robert Hazen de la Carnegie Institution of Washington, qui est parti du constat que souvent, alors on voit l'évolution, on parle de l'évolution biologique, mais qu'on décorrèle complètement cette évolution biologique de l'évolution du monde minéral et de son environnement. Donc lui, il propose un nouveau modèle dans lequel l'évolution du globe terrestre est distinguée en 6 grandes étapes, qu'il a associées à une grande couleur. Donc vous avez la Terre noire. La Terre noire, c'est quoi? C'est la cristallisation d'une croûte basaltique noire à partir donc, d'un océan magmatique primitif. Ce qu'il appelle ensuite la Terre grise, qui correspond à la formation des premiers continents. La Terre bleue, c'est la formation de la condensation de l'hydrosphère. La Terre rouge, elle correspond à l'événement de la grande oxydation. Hein, on a l'oxygène donc, qui a oxydé les mers, puis ensuite l'atmosphère. La Terre blanche correspond aux grandes glaciations pré-cambriennes. Et puis enfin, le stade de Terre verte, dans lequel on a le développement de la biosphère terrestre. Alors ces étapes, elles ne se suivent pas forcément chronologiquement. On peut avoir des recoupements un petit peu entre ces deux étapes. Mais c'est six grandes étapes, six grands phénomènes qui ont joué sur l'évolution de la planète et aussi sur l'évolution minéralogique. Puisqu'on estime que pour accréter notre globe, si on regarde la composition des météorites, eh bien, on avait, lors de la formation de la planète, on estime à peu près 250 espèces minérales. Alors on peut se tromper d'un facteur 2, peut-être 500 espèces minérales, mais en tout cas, à l'heure actuelle, on connaît plus de 4500, voire 5000 espèces minérales. On les connaît encore pas toutes, hein. Chaque année, on découvre de nouvelles espèces minérales qui sont répertoriées dans un nouveau catalogue. Et en particulier, donc, on a eu des grandes périodes de croissance, d'apparition de nouvelles espèces minérales, soit lors de la formation de l'hydrosphère, je vous ai dit que les minéraux, les silicates peuvent incorporer de l'eau dans leur structure, soit lors de la période de grande oxydation, où on a formé donc beaucoup d'oxydes métalliques, de choses comme ça. Donc voilà, ce que je trouve qui est intéressant, c'est au travers de ce modèle, c'est vraiment de montrer la singularité de notre planète Terre, qui en fait quelque chose d'unique en termes d'évolution conjointe entre le monde minéralogique, le monde vivant, la biosphère et son environnement, et toutes les interactions qu'on peut avoir entre interactions et rétroactions entre le monde minéral, le monde vivant. Je vous remercie. Et si vous avez des questions, je vous laisse avec cette image de cristaux géants de la grotte de Nazca au Mexique. Ouais, une question? Oui. Alors les aspects nacrés, on en retrouve aussi avec la silice. En fait, là, c'est lié à un phénomène de diffraction de la lumière. Alors, on a des petites billes qui sont des voilà la biominéralisation est sous forme de petites sphères, hein, qui vont créer un phénomène d'interaction de diffraction de la lumière, ce qui donne ces aspects un petit peu irisés.
Et pour l'animal, est-ce que ça rend la coquille plus solide ou ça...
Une question, j'en ai aucune idée. Oui.
Vous avez associé tout à l'heure l'histoire du champ magnétique de la Terre à la formation de la graine.
Oui, alors...
Je n'ai pas dû comprendre ce...
Oui, ouais, non, je suis passé un petit peu vite, je ne me suis pas étendu là-dessus, mais alors, pour on a un problème un petit peu pour former le champ magnétique terrestre. C'est qu'on sait maintenant que on peut l'expliquer sous la forme d'une géodynamo auto-entretenue en faisant convecter du fer liquide, puisque donc si on a des particules électriques qui sont en mouvement, ça va générer un champ magnétique. Le problème, c'est que pour mettre cette machine en route, il faut de l'énergie. Et une des façons de faciliter la mise en route de cette machine, en fait, c'est associée à la cristallisation de la graine. Puisque, alors j'en ai pas trop parlé, mais en fait, on sait que dans la composition du noyau terrestre, on n'a pas simplement du fer, mais on a aussi un petit peu d'éléments légers. Alors ces éléments légers, ça peut être du soufre, de l'oxygène, pourquoi pas même de l'hydrogène. C'est une contrainte qui nous est apportée aussi par les sismologues qui nous disent que pour reproduire les vitesses sismiques ou la densité du noyau, il faut mettre quelques petits éléments légers. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va solidifier ce qu'on pourrait maintenant appeler un alliage métallique du fer et des éléments légers? Eh bien, seul le fer pur va cristalliser au niveau de la graine. Et donc, on va passer d'un mélange dans lequel on a un petit peu de soufre, d'oxygène, on va avoir une graine entièrement de fer pur, et donc on va relarguer à proximité de l'interface entre la graine et le noyau externe, on va relarguer des éléments légers. Et ces éléments légers, ils peuvent induire une convection solutale qui va faciliter la mise en route de la convection et le début de la géodynamo terrestre. Et in fine, effectivement, le champ magnétique terrestre a un impact sur le développement de la vie en surface. Question ? Ouais.
Moi, je me demandais comment est-ce qu'on fait pour savoir, quand on a trouvé la rigmanite dans la météorite terrestre, ouais, si elle était présente avant ou si c'est l'augmentation de la pression liée à l'onde de choc qui a formé le minéral.
Alors, on sait que ça s'est formé lors du choc parce que lorsqu'on regarde les zones à proximité de la météorite, qui sont elles aussi composées, qui ont la même composition chimique, en fait, la composition minéralogique d'une météorite, je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir, on peut acheter des météorites, des chondrites à pas très très cher. Alors, c'est des objets qui sont émouvants parce que c'est les objets les plus anciens que vous pouvez avoir dans votre poche. Il n'y a pas plus ancien qu'une météorite sur Terre. Mais si vous les regardez sous un microscope, en fait, vous allez retrouver les mêmes minéraux que ceux qui composent. Vous allez avoir beaucoup d'olivine, de pyroxène, de choses comme ça. Et c'est simple. Donc, c'est simplement au niveau de ces zones de choc, où ces minéraux, olivine, pyroxène, qui sont assez communs, qui sont communs aussi au manteau terrestre, vont avoir été transformés sous les phases de haute pression. Donc lors du choc, on localise les zones qui subissent les très hautes pressions et températures. Oui.
Je vais avoir une vision peut-être datée du manteau, mais j'avais l'idée que le manteau, la périodontite du manteau était anhydre.
Elle est globalement anhydre. Normalement, si on prend un cristal d'olivine, on dit que c'est anhydre parce que dans la composition classique de l'olivine, on ne retrouve pas d'eau. Et si on mesure les échantillons de péridotite, par exemple comme celui-ci là, qu'on trouve dans le massif central, en fait là on ne retrouve que quelques ppm d'eau. C'est simplement dans certaines de ces phases, là, telles que la ringwoodite ou la wetzlite, que les défauts font qu'on peut incorporer plus d'eau. Mais effectivement, les échantillons, la plupart de ceux qu'on retrouve en surface, eux, contiennent que quelques ppm d'eau. D'autres questions ?
Ouais. Est-ce qu'il y a une force associée à la contraction du fer dans le noyau interne ? Elles ont un impact sur la surface ?
C'est-à-dire, en fait, les forces, c'est ce qu'on appelle la pression. Donc la pression à l'intérieur de la Terre, en fait, elle est globalement, elle est ce qu'on appelle hydrostatique, c'est-à-dire que c'est comme dans un fluide, vous avez la même pression, vous êtes entouré d'un fluide homogène et une pression hydrostatique. Donc on déforme à partir d'une certaine profondeur à l'intérieur du globe, ça devient très difficile de faire des failles, par exemple, parce que la pression hydrostatique est telle que c'est difficile de faire des fractures ou des choses comme ça. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Par rapport à la cristallisation de la graine. Alors, bonne question. Il y a des gens qui ont essayé de regarder ça, mais en fait, vu que c'est un phénomène qui est tellement petit, à notre échelle de temps, on voit pas de différence sur le champ de gravité ou des choses comme ça. Peut-être qu'à plus long terme, on verra des choses, mais voilà, à l'échelle humaine, on voit pas de différence sur le champ de gravité. Ouais.
Oui, savoir, il y a des cristaux qui peuvent être soit purement chimiques sur certaines origines biochimiques, les mêmes cristaux. Je veux savoir si on arrivait à les distinguer, notamment le Raman.
Le Raman, c'est vraiment une sonde qui est structurale. Donc, ce qui va nous permettre de distinguer des cristaux qui sont d'origine biologique hein, par rapport à des cristaux qui ne le sont pas, un des arguments, ça peut être de réaliser de la chimie isotopique et de voir donc, si on a des isotopes hein, qui sont les isotopes traces du vivant, par exemple. Après, aussi, souvent, dans le cristal macroscopique qui s'est formé, s'il est issu d'une précipitation chimique, ou d'une précipitation biologique, les textures, les formes de grains vont être différentes. Donc ça va nous donner des indications aussi sur l'origine du cristal. On a le temps ?
Vous avez dit dans la théorie des minéraux, la Terre grise avant la Terre bleue. Alors moi, il me semblait que les océans se formaient très très vite et que les continents...
Oui, alors ça c'est... Non mais là, comme je l'ai dit, hein, ces stades ne sont pas forcément... Ils suivent pas de façon chronologique, ils peuvent un petit peu se chevaucher entre eux. Effectivement, en fait, on sait que très tôt, on a pu avoir des environnements hydratés sur Terre. Et d'ailleurs, dans la formation des croûtes, l'eau peut intervenir, on pense, pour former donc, la croûte granitique. Voilà. Donc dans ce modèle, hein, on ne respecte pas forcément une chronologie des différentes étapes, mais c'est des événements majeurs qui ont marqué l'histoire de la planète. Alors il y a un livre, hein, il a écrit un livre alors qui est en anglais, mais qui expose toute cette théorie qui est très bien écrit. Je pense qu'il sera dans quelques temps traduit en langue française. C'est un très bon vulgarisateur. Hein, il y a des conférences de Robert Razan sur ce sujet. Je pense même que sur Arte il y a un petit film qui présente cette théorie.
Merci.
Ouais.